On dirait que Facebook a le goût d'être plus blanc que blanc. Et pourtant, il y a quoi? Il y a un an à peine, ou l'automne dernier, je ne me rappelle plus exactement, mais Facebook avouait s'être un peu trop foutu le nez dans notre vie privée. Mais là, ça concerne les prochaines élections fédérales. Il y a un genre de processus d'autorisation des annonceurs. Pourquoi Facebook devient aussi docile? Pour en parler, on retrouve le spécialiste en cybersécurité, Steve Waterhouse. Pourquoi Facebook semble aussi docile tout d'un coup?
Bien, parce que Facebook, ça fait quelques années là, qu'ils sont sous l'effet d'un gros projecteur critique international. Et récemment aussi, la ministre Gould a fait en sorte qu'elle demandait à Facebook une meilleure collaboration en vue de protéger le processus démocratique en vue des élections du mois d'octobre prochain. Mais Facebook avait fait la sourde oreille, il avait été un petit peu, excuse-moi de dire ça de même, mais baveux, à l'effet que c'est juste le Canada qui nous demande de les aider, là, on a d'autres choses à faire. Tu sais, il y avait cette attitude-là méprisante. Mm-hmm. Et donc, ils ont juste rappelé que, ben voici, on a maintenant une loi qui a été votée, la loi C-76, au mois de décembre dernier, elle a eu la sanction royale, et ça dit à l'intérieur, là-dedans, donc, pour aider à faire respecter cette loi-là en vue des élections, ben il faut que les plateformes de médias sociaux aident le gouvernement, parce qu'ils n'ont pas accès à toute l'information et la manne d'informations qu'ils ont, d'aider à identifier qui achète et qui influence plutôt, qui achète la publicité pour influencer n'importe qui, donc pour faire arranger le vote. Parce que c'est un peu ça qui est ressorti, Mathieu, lors du rapport qui a été déposé, donc des observations des élections 2016 aux États-Unis. Donc, les médias sociaux, donc Facebook est un des plus populaires, puis le plus gros, on va le dire de même, se veut à ce moment-là de montrer qu'ils sont collaboratifs, qu'ils sont bons joueurs, parce que veut, veut pas, dans la prochaine élection aux États-Unis, dans 2 ans, ben ils vont être appelés à faire la même chose. Fait que c'est un peu donnant-donnant de commencer avec le Canada, mettre des outils en place, les essayer, moi je le vois comme ça, et après ça, arriver avec le côté américain et dire, ben voici, on va vous aider à 100%, on a fait des essais, c'est prouvé, puis on est capable de répondre à vos questions.
On parle vraiment de la publicité sur Facebook. Celui ou celle qui a le goût de faire du spin pour vanter son candidat sur son mur personnel, ça, Facebook, il n'ira pas se mettre le nez là-dedans.
Non, ça reste pareil, parce que toi et moi, Mathieu, on peut faire de la publicité, des commentaires, pas de la publicité, mais bien des commentaires sur on n'aime pas la façon que le candidat A s'habille, on n'aime pas le parti politique B, où il s'oriente avec les idées de peu importe le sujet. Donc ça demeure pareil, ils respectent encore ça, mais jusqu'à un certain point, lorsque ça va, si une personne commence à publiciser à outrance ce genre de commentaires et qui diffuse et met sur plusieurs forum la même information. Là, Facebook va lever
un drapeau, tout à fait.
Oui. Il va dire que c'est peut-être une influence indue qui est démarrée par un certain agent d'influence. Mettons ça comme terme. Cependant, puis on l'a vu récemment, je veux dire, la présidente de la Chambre aux États-Unis, Nancy Pelosi, ben, elle a eu une vidéo qui était faite contre sa personne qui critiquait fortement le président Trump. Puis on l'a vu, la présidente qui avait l'air amochée sous l'effet de l'alcool, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a tout simplement traité l'image, ralenti l'élocution de la personne. Et ça s'est avéré que c'est un fan du président Trump qui était à New York qui a produit et diffusé cette information-là. Donc, c'est comme on dit, la compagnie s'arrêtera pas à des diffusions personnelles, à moins que ça soit très grave, comme il y en a un présentement qui s'est fait condamner aujourd'hui à Montréal pour des propos haineux. Ça va demeurer parce que ça fait partie des politiques d'usage de la plateforme. Mais le restant, c'est là que ça va devenir quand même difficile de discerner, à moins qu'il y ait des plaintes, si c'est à ce moment-là d'influence indue ou bien tout simplement un commentaire normal que tout le monde jase.
Une plainte à Facebook, est-ce que c'est long à acheminer, long à traiter, long à régulariser, si on veut?
Ça dépend encore là du type de plainte, je veux dire. Il y a des plaintes qui vont... Parce que ça passe à différentes étapes, Mathieu. Tu as une étape que c'est de l'automatisation. Il y a des mots-clés, il y a des patterns, vraiment, qui vont être observés par les différents algorithmes pour épurer la majorité des plaintes. Et quand la plainte n'a pas été résolue de façon satisfaisante par les algorithmes aux premières instances, bien, c'est un opérateur à ce moment-là qui en a engagé beaucoup d'autres récemment, dans les dernières années, pour être capable d'interpréter qu'est-ce qui est présenté de par la plateforme. Fait que généralement, ça va être de l'ordre de quelques minutes, parce que rappelle-toi aussi, Mathieu, de quand est arrivée la tuerie en Nouvelle-Zélande, ben, Facebook se sont fait pointer du doigt. Comment ça, vous n'avez pas agi rapidement pour détecter cette vidéo en temps réel? Mais la vidéo en temps réel, c'est traité différemment parce que c'est Il n'y a pas un algorithme présentement qui est capable de faire le discernement de toutes les images en temps réel pour déterminer si c'est bon ou si c'est pas bon. Fait que ça prend une interprétation humaine. Dans ce cas ici, en Nouvelle-Zélande, il a fallu que quelqu'un appelle et dise « Hey, qu'est-ce que vous attendez pour le déployer? » Alors que lorsque c'est des vidéos statiques, des images, là, les algorithmes sont capables de les interpréter correctement et avec un taux de succès d'environ 85% la dernière fois que j'ai vérifié. Et après ça, s'il y a un 15% qui passe, ben c'est là le facteur humain, je te dis, qui va être capable de l'interpréter puis de le bloquer. Mais s'il n'y a pas personne qui rapporte, c'est rare qu'ils vont faire de la détection préventive parce que ça vient de la suppression un peu d'informations, puis là, les gens vont arrêter de se servir de la plateforme. Ils veulent pas ça, évidemment.
On est en compagnie de Steve Waterhouse, expert en sécurité informatique chez InfoSec SW. Dites-moi, autre sujet aussi, une personne sur quatre ne fait pas confiance en Internet, selon une enquête. Pourtant, au fil des années, Internet, oui, il y a eu des cas typiques, mais le niveau de sécurité a quand même augmenté, ne serait-ce que les transactions bancaires, les achats sur le web qui sont en quasiment en augmentation exponentielle. Comment se fait-il qu'on réussisse à avoir encore une personne sur quatre là, qui soit carrément inquiet face à Internet?
Mon interprétation, Mathieu, est bien simple, c'est que les gens voient systématiquement que les systèmes ne sont pas sécuritaires parce qu'il y a des fuites d'informations. Systématiquement, quotidiennement, je te dirais, il y en a. La plus grosse, la celle qui percute le plus, là, qui est parue dans les médias hier, c'est encore l'agence frontalière américaine, que parce qu'ils faisaient affaire avec une agence en impartition de tierce partie, ben ils se sont fait pirater et l'information nominative et des photos de voyageurs qui ont été aux États-Unis, bon, elles ont été capturées, donc ça va être probablement dilapidé sur le marché noir. Puis il y a peut-être encore là des campagnes de pourriel, de spam qui vont émerger de ça. Mais c'est cette la confiance est éliminée par des petites actions comme ça. Et la confiance est éliminée aussi par, je te dirais, la mécompréhension de tous ces outils-là. Parce que Mathieu, rappelle-toi, là, 20 ans, c'était quand même simple d'utiliser l'Internet. Là. On s'en allait, on connectait avec le modem, ça griche, on est connecté.
Exactement.
Mais là, aujourd'hui, non, mais il y avait un suivi. Tu sais, c'était il y avait des étapes logiques à entendre. La connexion, elle se fait, parfait, on est connecté, on consulte l'information. Mais là, aujourd'hui, là, c'est omniprésent 24/7. Et comment est-ce que tu arrives pour une personne, puis je vois souvent ça, où est-ce que une certaine génération de personnes, ben autant jeunes que vieux, ils veulent aller chercher l'information, mais ils savent pas par où passer. Et il y a tellement d'étapes à négocier, pour pas dire d'obstacles, pour pas se faire prendre par des attrapes, qu'ils ont peur. Les gens ont peur de se faire justement un vider le compte de banque parce qu'ils savent pas quand est-ce qu'une bébête va rentrer dans les ordinateurs. Et après coup, ils sont dépourvus de comprendre à la vitesse que ça va, comment ça se passe. Donc, les gens, tant qu'à faire, ils disent, on laisse ça aller, on va se prendre un moyen alternatif pour être capable d'aller chercher la même information. C'est-à-dire, des fois, le bon vieux papier journal en papier, c'est-à-dire.
Merci, Steve, pour les explications. Bonne journée.
Bonne journée, à la prochaine.
Steve Waterhouse, expert en sécurité informatique chez InfoSec SW.